Bonjour à tous et bienvenue sur les routes de l'Asie, épisode numéro 45, Luang Prabang, histoire, architecture et site majeur. Vous êtes bien sur les routes de l'Asie, le podcast du voyage d'aventure et découverte en Asie. Mon nom est Romain Lazzarotto et tout d'abord une petite excuse pour le retard dans la publication de ce premier épisode de l'année. Je n'ai pas réussi à tenir l'engagement de la diffusion en janvier et du coup j'ai raté aussi l'occasion de vous souhaiter à tous une très belle année 2017. Mais bon, même si c'est un petit peu tard, ça ne m'empêche pas de le faire ici et maintenant. En revanche, c'est le bon moment pour vous souhaiter une autre bonne année, celle du coq, qui vient de commencer il y a quelques jours à peine dans le calendrier chinois. Je suis très heureux aujourd'hui de vous présenter ce nouveau numéro qui est une longue et passionnante discussion avec mon invité Francis Engelmann que j'ai eu la chance de rencontrer en personne lors d'un séjour récent dans la petite ville de Luang Prabang au Laos, pays dont on n'a encore jamais parlé et pourtant qui est l'un des joyaux de l'Asie du Sud-Est et sans conteste l'un de ceux que je préfère dans cette région. Avec Francis, on va vraiment aller au fond du sujet, vous allez le voir, et puisque la discussion est longue et pour avoir des épisodes qui restent digestes, elle sera découpée en deux parties, et dans cette première partie, nous allons nous pencher sur l'histoire, l'architecture et les sites majeurs de ce joyau qui est Luang Prabang. Bonne écoute! Eh bien, bonjour Francis, bienvenue sur les routes de l'Asie.
Bonjour.
Eh bien, en tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation ici à Luang Prabang pour faire cette interview ensemble aujourd'hui. Ça tombe bien parce que je passe quelques jours ici pour un séjour, voilà, pour profiter un peu des derniers jours de l'année, pour me reposer. Et puis j'ai trouvé via internet votre contact et j'ai vu que vous étiez un spécialiste de Luang Prabang et du Laos, mais surtout de Luang Prabang où vous séjournez depuis pas mal d'années. On va en parler. On a beaucoup de choses à dire sur Luang Prabang. Moi, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement en Asie. J'y suis venu pour la première fois en 2009. C'était un voyage de 3 semaines dans Laos. Je m'étais arrêté que 2 jours à Luang Prabang et je me rends compte avec le recul que c'était pas assez. C'est pour ça que là je reviens 5 jours pour vraiment profiter de cette ville qui est magnifique et qui est assez unique en Asie. Donc on va parler de cette ville, de ce joyau du Mékong, de ce joyau du Laos. Il y a pas mal d'appellations sur Luang Prabang qu'on peut lire ça et là. Mais pour commencer, Francis, parlez-nous de votre parcours. Qu'est-ce que vous faites ici à Luang Prabang et puis qu'est-ce qui vous a tout simplement amené ici?
Alors moi je suis arrivé ici il y a assez longtemps, ma première arrivée au Laos c'était en 1991, donc c'était il y a longtemps. J'ai passé quelques années à Vientiane dans la capitale et puis je suis installé ici à Luang Prabang depuis 2002. Alors ce qui m'a amené ici c'est que je suis urbaniste de formation et je suis venu à la demande de l'UNESCO. Je suis arrivé ici alors qu'on mettait en place les instruments de gestion de ce patrimoine classé par l'UNESCO. L'UNESCO avait classé le patrimoine en 1995 et avait mis un peu comme condition au classement que les autorités du Laos créent une autorité, un bureau, quelque chose qui soit capable de suivre ce qui se passait. La grande crainte de l'UNESCO, c'était que on classe le site et puis qu'après, on ne sache pas comment le protéger et que donc les choses puissent se dégrader, qu'on démolisse les bâtiments les plus intéressants, qu'on construise des choses hors de proportion. Donc l'UNESCO a demandé au gouvernement du Laos de créer cette autorité de protection. Ça s'est fait avec de jeunes professionnels du ministère de la Culture, essentiellement des jeunes architectes et des ingénieurs, mais ils n'avaient pas d'expérience. Donc l'UNESCO a mis à leur disposition des gens comme moi qui avaient d'expérience dans différents domaines, des architectes spécialistes du patrimoine, on avait un spécialiste des bâtiments en bois, spécialiste aussi des mares, des zones humides, de la protection de l'environnement, puisque le site est non seulement un site historique bâti, une charmante petite ville ancienne, mais c'est aussi un très beau site, donc avec des rivières, des montagnes, des forêts et des mares à l'intérieur même de la ville.
Voilà, alors vous avez commencé à parler un peu de la géographie, enfin des aspects géographiques de Lang Prabang. C'est vrai que c'est un très bel endroit. C'est au milieu des montagnes comme ça, et à la confluence du Mekong et de la rivière Kan. Donc et la vieille ville s'étend comme ça sur une sorte de petite péninsule. C'est vraiment très joli. Alors on va commencer peut-être par parler de la géographie de Lang Prabang dans le Laos. Le Laos, on n'en a jamais parlé encore dans l'émission, donc ça me fait très plaisir de commencer aujourd'hui avec vous sur Lang Prabang. Donc est-ce que vous pouvez nous parler en 2 minutes de la situation géographique de Lang Prabang au Laos?
Alors, le Laos est au milieu de l'Asie du Sud-Est, avec beaucoup de voisins, la Chine, la Birmanie, la Thaïlande, le Cambodge, le Vietnam. C'est un pays qui est enclavé, donc c'est un des rares pays dans le monde qui n'a aucun accès à la mer directe. C'est un pays montagneux, qui n'est pas un pays très riche du point de vue agricole, donc il y a quelques petites plaines, surtout dans le sud du pays, mais c'est un pays qui n'est pas très riche du point de vue agricole. C'est un pays donc qui est très allongé. Et donc au nord, il fait un climat beaucoup plus frais. Nous sommes actuellement à la saison la plus fraîche de l'année. Et à Luang Prabang, ça se sent plus qu'ailleurs. C'est un pays qui est traversé par le Mékong, ce grand fleuve qui prend sa source sur le plateau du Tibet en Chine, et puis qui va traverser successivement Birmanie, Laos, Thaïlande, Cambodge, et puis qui se jette enfin au Vietnam dans la mer de Chine du Sud. C'est un pays où les cours d'eau sont très importants, et Luang Prabang, vous le disiez, s'est installé à un confluent entre deux rivières. C'est une sorte d'éperon rocheux, et le petit affluent, la rivière Kan, ne peut pas arriver à traverser cet éperon rocheux, donc le contourne et crée cette péninsule qui est très favorable à une installation humaine, puisque c'est un lieu facile à protéger. C'est des fossés naturels. Il suffit de construire un mur sur le dernier côté qui n'est pas protégé, et ça fait un endroit facile à défendre. C'est très important dans l'histoire de cette région puisque, on va dire, aux origines de ces peuplements, on avait des petites principautés qui passaient leur temps à se faire la guerre. Donc, avoir une capitale bien protégée, facile à défendre, était un atout important. Donc, on ne sait pas exactement quand ce site a été occupé, probablement depuis très très longtemps. Par malchance, on n'a pas eu de fouilles archéologiques à Luang Prabang. Donc, on ne sait pas très bien les parties, on ne connaît pas très bien les temps les plus reculés de Luang Prabang. On ne commence à savoir un petit peu ce qui s'y passe que vers le 14e siècle.
D'accord. Et si on va dans l'histoire la plus récente, dans les derniers siècles avant nous, quel est le rôle historique de Lang Prabang dans le Laos? Parce que s'il y a un tel patrimoine à Lang Prabang aujourd'hui, c'est bien qu'il y a une histoire sur tout ça.
Alors, l'histoire de Luang Prabang, c'est l'histoire de la capitale d'un petit royaume. Ce petit royaume commence à exister et à se faire connaître à travers en particulier des annales royales, donc des documents écrits à la demande des petits rois de Luang Prabang au XIVe siècle. C'est parmi d'autres petits royaumes, d'autres petites principautés de la région qui se développent j'allais dire, sur les ruines de l'Empire Khmer. Le grand et le plus important centre de puissance, de raffinement, de civilisation, c'est l'Empire Khmer, qui, au XIVe siècle, s'effondre, a été très puissant et très admiré, et puis, pour des raisons que les historiens continuent encore à discuter, probablement surexploitation des ressources, et bien entendu des guerres, se fragmente, et sur les marges, à la périphérie, ici se constitue ce petit royaume de Luang Prabang, un peu plus loin, à Sukhothaï, en Thaïlande, se constitue un nouveau petit royaume du Siam, et c'est sur donc les périphéries que se créent ces royaumes. C'est intéressant parce que, en fait, l'Empire Khmer, même s'il est vaincu à la fin, et aujourd'hui le petit Cambodge de aujourd'hui ne ressemble pas beaucoup au grand empire khmer qu'il y a eu dans l'histoire, mais c'est toujours dans la mémoire, ça a toujours été dans la mémoire des peuples, un modèle de civilisation, un modèle de culture, et les Laotiens, comme leurs voisins, ont emprunté à la culture khmer beaucoup de leur propre culture. Alors ça, c'est très important, on a là quelque chose de très homogène, on a des éléments khmer, aussi bien d'ailleurs aux gens de la Thaïlande d'aujourd'hui que bien entendu au Cambodge, au Laos, mais aussi en Birmanie, chez les Tiam, qui sont aujourd'hui ont été absorbés par les Vietnamiens. Donc on a là quelque chose de très important, un foyer de rayonnement culturel ancien, très, très puissant. Et puis après, ce royaume se développe et il atteint son apogée au XVIe siècle avec un grand roi, roi Settatirat, qui étend largement les frontières du Laos au-delà de ce qu'elles sont aujourd'hui. Et puis, malheureusement, le règne se termine mal. Le roi disparaît au cours d'une guerre et les successions font que le royaume est divisé en trois parties. Plus on est petit, plus on est fragile, et donc on se défend moins bien contre les puissants voisins. Et à partir du XVIIe siècle, le royaume du Laos s'est divisé en trois petits royaumes. Le royaume du Nord, Luang Prabang, un royaume au centre avec la capitale Vientiane, et puis au sud, Champasak, de l'autre côté, de Paxé, ville moderne du Laos du Sud. Progressivement, ces trois petits royaumes se font absorber par les voisins. Luang Prabang est sous tutelle siamoise, le Siam qui deviendra la Thaïlande d'aujourd'hui, et puis Vientiane est complètement même rasée à la suite d'une révolte et administrée depuis la rive siamoise, de l'autre côté de du Mekong, et puis Champasak également est absorbé et le petit prince de Champasak devient un vassal du Siam. Donc au moment où se passe l'arrivée des Français, la partie coloniale de l'histoire, eh bien, il reste plus grand-chose du Laos d'autrefois. Et c'est le cas d'ailleurs aussi du Cambodge, qui à la fin du XIXe siècle avait quasiment disparu de la carte. Alors, la période coloniale, c'est une période où deux grands empires coloniaux s'affrontent. Les Français qui ont pris pied d'abord dans ce qui est le Vietnam aujourd'hui, et puis on a de l'autre côté, en Inde, l'Empire britannique. Et chacun, évidemment, essaye de gagner du terrain et en se rapprochant de l'autre. Les Britanniques absorbent ensuite la Birmanie et la France vers l'ouest. Donc prend sous son protectorat le Cambodge, puis le Laos. Alors à ce moment-là, le Laos retrouve une partie de sa prospérité. Luang Prabang, par contre, se développe très lentement, parce que c'est quand même le petit roi de Luang Prabang qui va devenir le roi du Laos réunifié à l'époque coloniale, mais la capitale est à Vientiane. La capitale est à Vientiane depuis le XVIe siècle. Le roi Settatirat, dont j'ai parlé tout à l'heure, a subi deux attaques birmanes. La ville a été incendiée, pillée, et donc le roi au XVIe siècle avait décidé que l'endroit était un peu trop exposé. Malgré son site bien protecteur, c'était trop près, et donc il déplace sa capitale à Vientiane, et Vientiane restera la capitale depuis cette époque. Donc les Français reconstruisent une capitale à Vientiane, au début du XXe siècle, mais Luang Prabang reste la capitale du roi. Alors, c'est une petite ville modeste, j'allais dire, il n'y a pas de moteur économique à Luang Prabang. Le roi, c'est un homme cultivé, raffiné, pieux, il a des artisans, des musiciens, des artistes à la cour, mais c'est pas une activité économique très importante. L'activité économique, elle est à la capitale, Vientiane, ou dans les villes du sud, qui sont dans des plaines plus fertiles et qui sont mieux en contact avec les échanges Vietnam, Thaïlande. Donc, Luang Prabang est une ville qui, pendant les 50 ans du protectorat français, c'est-à-dire les 50, on va dire en gros les 50 premières années du XXe siècle, va s'embellir, se développer, mais c'est pas un très grand développement. Si bien qu'on n'a pas besoin de démolir pour reconstruire, on n'a pas besoin de construire de nouvelles maisons dans les jardins, parce que la ville se développe tout doucement. Et c'est ça qui fait qu'on a aujourd'hui hérité d'une petite ville ancienne bien conservée, parce qu'elle n'a pas subi les nécessités d'un développement économique rapide comme d'autres villes du Laos. Alors on a ici quelque chose de tout à fait étonnant, qui est un mélange entre ce qui existait avant l'arrivée des Français, qui est une architecture, un style de ville, on va dire assez villageois, et puis avec les Français, d'autres esthétiques, d'autres valeurs, d'autres manières de construire qui se développent.
Et est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, c'est surtout le passé colonial qu'on voit à Langres-Brabant quand on se promène dans les rues? Parce que c'est vrai qu'on ne peut pas éviter l'école primaire de Langres-Brabant. On voit tous ces noms de bâtiments, les noms des ministères également sont toujours doublés en français. Les maisons avec les volets bien à la française, c'est surtout ce qu'on voit aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que ça a pris le dessus quelque part sur le Langres-Brabant d'avant? Ou est-ce que c'est possible de voir aujourd'hui comment était Langres-Brabant avant l'arrivée des Français?
Alors vous avez tout à fait raison. C'est la période coloniale qui a le plus marqué la ville. Mais en cherchant bien, je pourrais vous montrer quelques endroits qui sont des témoignages de ce qu'était Langres-Brabant avant l'arrivée des Français. Alors, pour être très simple, en gros, on avait à la fois une organisation de l'espace différente et un type d'architecture différent. Alors, l'organisation de l'espace, c'était en fait, Langres-Brabant était un ensemble de villages, on va dire un groupement de villages, avec au centre leur monastère bouddhiste, leur vat, comme on dit en laotien, et puis autour des maisons implantées au milieu de leur jardin et beaucoup de végétation. Cet urbanisme-là, il est encore visible dans quelques endroits, dans quelques villages, mais évidemment pas partout. Alors, les Français sont arrivés avec deux idées majeures. D'abord, il faut faire une vraie ville. Cette petite capitale royale mérite d'être embellie selon le goût français. Donc, on va rectifier les rues, on va faire les pavés de briques, et puis on va créer des fronts bâtis. Pour les Français, une vraie rue, c'est une rue où les maisons sont alignées les unes à côté des autres. Et puis, si des jardins il doit y avoir, eh bien, ils sont derrière. Donc, les Français changent la manière d'implanter les maisons sur leurs parcelles. Et puis, donc on a à Langres-Brabant aujourd'hui une petite ville qui ressemble à une vraie petite ville. C'est petit, c'est tout petit. La ville ancienne, c'est 20 000 habitants, selon les chiffres dont on dispose. Puis c'est 60 000 habitants, peut-être toute la ville entière. Donc on est dans du très modeste quand même, hein. Mais ça ressemble à une petite ville, c'est pas une bourgade de campagne. Et la deuxième chose très importante que les Français changent ici, c'est les modes de construction. Les Français arrivent, tout est en bois ici. Nous sommes dans un pays de montagne, pays boisé, où le bois est abondant. Depuis toujours, les Laotiens construisent leurs maisons en bois, leur monastère aussi, et même le palais royal, quand les Français arrivent, est en bois. Les Français, à cette époque, peut-être encore un peu aujourd'hui, peut-être un petit peu moins, n'ont pas une très bonne opinion des constructions en bois. Le bois, c'est bien pour une grange, un chalet, mais un palais certainement pas, et les bâtiments publics non plus. Alors, ils introduisent l'usage de la brique. La brique, c'est plus résistant, et puis on connaît bien la manière d'associer la brique avec des styles architecturaux européens. Donc les Français commencent par construire quelques bâtiments importants à la demande du roi. Le roi s'est mis sous la protection des Français à la suite d'attaques, etc. Donc c'est l'histoire d'Auguste Pavie, c'est une histoire d'un protectorat qui se fait tout en douceur, puisqu'il n'y a pas eu de guerre coloniale ici. Le roi, parmi les premières choses que le roi demande et obtient, c'est d'avoir des bâtiments publics qui n'existaient pas. Alors, des écoles, un hôpital, une gendarmerie. En prime, les Français offrent aussi au roi un nouveau palais. Un nouveau palais, bien entendu, le palais ancien existait, il était en bois, c'était un très beau bâtiment en bois avec des sculptures assez grands, mais les correspondances qu'on a de l'administrateur colonial disent le roi habite dans une baraque, quasiment un taudis, hein, le bois, ça passe pas. Et donc les Français n'ont de cesse que de proposer au roi de lui construire un nouveau palais digne de ce nom, et c'est le palais qu'on visite toujours aujourd'hui, qui était construit dans les toutes premières années du XXe siècle, donc qui a mis un certain temps, il a mis 4-5 ans à être construit, et offert au jeune roi Sisavong Vong, qui avait 18 ans quand il montait sur le trône, et il a tout eu en même temps, le palais, le royaume et le mariage. Son père, qui était encore un vieux roi, ne voulait pas entendre parler de ça. Et le roi Sisavang Vong n'a pas tout de suite habité dans le palais. Il a gardé le palais en bois et c'était simplement les cérémonies officielles qui se faisaient dans le nouveau palais en briques, qui était quelque chose d'un peu nouveau, un peu étrange pour le roi. Donc les Français introduisent un nouveau matériau, la brique. Ils ont beaucoup de mal à trouver des ouvriers et des contremaîtres pour construire, puisque les Laotiens sont habitués au bois, mais pas à la brique. Donc ils font venir quelques contremaîtres vietnamiens qui ajoutent leur manière de voir les choses, leur touche, leur style. Et puis après, les gens regardent, c'est nouveau, ça vient de Paris, c'est moderne, c'est à la mode, c'est probablement plus résistant, c'est peut-être plus confortable. Et donc ils empruntent des morceaux de cette architecture. Mais ils empruntent des morceaux seulement. Parce qu'ici, il y a très peu, à part les bâtiments construits pour des Français, par des Français, il y a très peu de bâtiments qui sont complètement, on va dire, des imitations de bâtiments à la française. C'est toujours, ici à Luang-Prabang, presque toujours un mélange entre des parties en bois et des parties en maçonnerie de style européen. Le prototype, l'exemple type de la maison de l'époque coloniale, c'est une maison où le rez-de-chaussée a des pilastres, des poteaux en briques, de section généralement carrée. Et puis le premier étage, lui, est en bois avec une véranda, comme ont toujours aimé les avoir les Laotiens. Et donc on a un mélange, donc une base de style européen et puis une greffe par-dessus qui est le vieux style d'autrefois. Et donc une maison en bois sur une base occidentalisée. Donc c'est ça l'architecture coloniale. C'est une architecture qui est très mélangée, très métissée. Et puis bien entendu, les Vietnamiens ont ajouté quelques détails, ils ont changé un peu la forme des toits que leur demandaient de faire les Français. C'est une époque de prospérité commerciale, le début du protectorat. Et donc les Chinois, les marchands chinois viennent s'installer. Eux aussi ont leurs habitudes, leurs goûts. Et vous avez des maisons ici où c'était un vrai mélange entre des influences européennes, locales, chinoises, vietnamiennes. Donc ce qu'on appelle, de manière un peu simplifiée, architecture coloniale, est une architecture qui est souvent très mélangée et qui est assez variée, parce que chacun y a emprunté plus ou moins d'influences externes. Alors on garde quand même quelques grands principes ici. Comme l'architecture était en bois, on a eu beaucoup d'incendies à Luang-Prabang autrefois, et on prend l'habitude de séparer la cuisine du reste de la maison, parce que les incendies commencent très souvent dans les cuisines. Donc, et même après, lorsqu'on construira des maisons entièrement en briques, ben on aura très souvent une petite cuisine qui est un petit bâtiment séparé de la maison principale. On garde aussi la véranda, qui est traditionnellement ici l'endroit où l'on reçoit les visiteurs. On ne fait pas rentrer dans les maisons les visiteurs. L'intérieur de la maison, c'est le domaine intime de la famille. Il est protégé par les esprits protecteurs de la famille, les esprits protecteurs de la maison. Donc, on ne fait pas rentrer les étrangers à l'intérieur. On les reçoit dans la véranda, qui est une galerie généralement très ouverte, très aérée, qui est sur un des grands côtés de la maison et qui est à moitié dehors, à moitié dedans, protégé du soleil et de la pluie. C'est généralement un lieu très agréable pour se tenir. Et c'est là qu'on reçoit les étrangers. Les escaliers, d'ailleurs, mènent toujours à la véranda, ils ne mènent pas à l'intérieur de la maison. Alors, ces escaliers, c'est aussi quelque chose de très amusant parce que, avant l'arrivée des Français, les escaliers, c'était des sortes d'échelles en bois, pas très confortables, pas très pratiques. Et les Français, avec la brique, font des escaliers qui sont assez sophistiqués, qui sont confortables, qui sont faciles à monter et, on va dire, qui quelquefois sont beaucoup d'ampleur, à double révolution. On va dire, c'est pas des petits Fontainebleau, mais enfin, c'est des escaliers assez sophistiqués. Et les escaliers de l'époque coloniale, ici, ça a eu un succès fou. Et l'escalier est devenu une sorte de symbole du statut social. Alors, plus on est élevé dans la société, plus on a un gros escalier, plus l'escalier est décoré, plus il est imposant. Et donc, on a ici quelques maisons où il y a des escaliers qui sont, du point de vue de l'architecte qui ne connaîtraient pas cette histoire sont vraiment disproportionnés. Mais ils ont une signification. Tout le monde sait ici que plus l'escalier est somptueux, plus la personne qui habite la maison est importante. Alors ça, c'est quelque chose qui est un détail intéressant, comment les Laotiens ont absorbé l'influence française, puis l'ont un peu retransformé à leur manière, l'ont adopté et transformé.
D'accord, bah tout ça est très intéressant, et c'est vrai que cette architecture dont vous avez parlé, on la voit partout en se baladant. Il y a de très très beaux hôtels, de très beaux petits restaurants. Alors tout n'est pas ancien, hein. Souvent l'architecture est de style colonial, mais est récente. Mais il y a des hôtels magnifiques. On est dans l'un d'eux en ce moment. C'est une vieille maison coloniale pour le coup, qui est très belle, mais dont certaines parties ont été rajoutées plus tard dans le même style, ce qui donne l'impression que tout l'ensemble est d'origine, mais ce n'est pas forcément le cas. Mais c'est vrai qu'on va pas bouder de notre plaisir. C'est très agréable à Langkawi Prabang d'aller prendre un café sur une petite terrasse d'un petit restaurant de style colonial. C'est quand même aussi en partie pour ça qu'on vient. C'est pour ce type de petit plaisir que le voyageur peut avoir. Alors il y a beaucoup de choses. Vous avez parlé beaucoup d'architecture. Il y a beaucoup de sites majeurs à Langkawi Prabang, beaucoup de temples et de monastères. On va parler aussi un peu plus tard des moines, puisque c'est une des choses évidemment très importantes ici à Langkawi Prabang. Mais pour parler d'abord des sites majeurs de Langkawi Prabang, est-ce que vous pouvez nous guider à travers la ville avec quelques-uns de ces plus importants sites?
Oui, bien sûr, mais en même temps, je le fais avec un peu de réticence, parce que ce que je trouve une des choses qui sont les plus, moi, ce qui me touche le plus à Luang Prabang, ce que j'aime, c'est l'atmosphère de Luang Prabang. Donc, c'est pas Luang Prabang. Pour moi, c'est pas une collection de monuments remarquables, parce que, disons-le franchement, il y a rien de vraiment exceptionnel à Luang Prabang. Mais ce qui est très beau, c'est un ensemble homogène qui a beaucoup de charme, qui a beaucoup d'unité. On a parlé beaucoup d'architecture, mais il y a aussi beaucoup de végétation à Luang Prabang. On est entouré de jardins. Là, nous sommes dans une pièce de la maison. Par toutes les fenêtres, on aperçoit des arbres, des plantes, des fleurs. Et ça, c'est une partie du charme de Luang Prabang. Alors, je vais dire, il y a quand même quelques monstres sacrés. C'est vrai. Mais ce qui est agréable à Luang Prabang, avant tout, moi, je trouve, c'est de se promener, de flâner. Alors, vous disiez, tout n'est pas ancien, mais comme la ville est bien protégée, l'UNESCO et l'autorité de conservation font en sorte que ce qui se construit de neuf, c'est dans le style traditionnel. Donc, quand on n'est pas un spécialiste, on peut même se laisser prendre et ne pas très bien savoir si c'est très vieux ou pas très vieux. Hein. Mais ce qui compte, c'est le charme que tout ça dégage ensemble. Alors, parmi ces monstres sacrés, qu'est-ce qu'il y a? Alors, il y a d'abord un monastère bouddhiste qui est Wat Sien Tong, qui est une fondation royale. La tradition dit que c'est le monastère qui était, avant de devenir monastère, le palais royal lorsque le roi Setathirath, au XVIe siècle, a décidé de transférer la capitale de Luang Prabang à Vientiane. Alors, il aurait fait don de son palais royal pour devenir un monastère bouddhiste, pour se faire un peu pardonner le fait d'abandonner la ville. Alors, c'est un bâtiment dont les parties les plus anciennes datent du XVIe siècle. C'est pas très ancien non plus. Ici, on n'a rien de très ancien. Tout a été brûlé, pillé à plusieurs reprises. Donc, beaucoup de choses sont pas très anciennes, sont 18e, 19e. Wat Sien Tong, il y a des parties du XVIe siècle. On ne sait plus très bien qu'est-ce qui est très ancien, qu'est-ce qui n'est pas très ancien, parce que comme c'était une fondation royale, tous les rois, après le roi Setathirath, depuis le XVIe siècle, ont tous eu l'envie, le goût d'y ajouter quelque chose, de l'embellir, de l'agrandir, et donc il y a beaucoup d'additions, de superpositions, ce qui fait aujourd'hui un très bel ensemble, jusqu'à la fin de la royauté. La royauté s'achève en 1975 avec le changement de régime et la prise du pouvoir des communistes. Le dernier roi, jusque dans les années 70, fait un décor éblouissant à base de mosaïques de verre, qui est un très très beau décor parce qu'il est fait dans le style traditionnel des pochoirs. Il reprend le même répertoire, les légendes, la vie du Bouddha, mais en même temps, c'est fait avec une nouvelle technique qui sont des petits morceaux de verre colorés qui reprennent ce qui autrefois était des feuilles d'or dans les trous du stencil, en bon français, du pochoir. Donc ça, c'est un très bel ensemble monastique. Les monastères, ce ne sont pas simplement des monuments ou des temples, donc un sanctuaire isolé, mais c'est un ensemble dans lequel il y a beaucoup de monuments, et souvent il y en a plusieurs qui sont très intéressants. Il y a le sanctuaire principal où se déroulent les cérémonies importantes, qui est très important, mais il y a souvent aussi d'autres bâtiments intéressants, les habitations des moines, il y a la tour du tambour, il y a une bibliothèque, il y a un abri pour les pirogues de course, enfin, il y a beaucoup de bâtiments dans l'enceinte des monastères. Ça c'est le premier, on va dire c'est l'incontournable, le plus beau monument. Il est, je conseille à ceux qui veulent visiter, c'est un endroit qui est un peu couru touristiquement, il y a beaucoup de monde. Moi je conseille de le voir à la tombée du jour, où il y a beaucoup moins de monde, c'est éclairé un peu la nuit, c'est pas très éclairé, donc on peut deviner, c'est un côté un peu romantique, ça c'est un très beau monument. Alors le deuxième monument, on va dire le plus important et le plus visité, c'est l'ancien palais royal, aujourd'hui musée national. Donc ça a été la résidence officielle du roi pendant toute la période royale jusqu'en 75, date où le pays change de régime, et le roi quitte son palais, envoyé donc dans un camp de rééducation d'où il ne reviendra pas. Le musée donc a été construit au début du siècle, au début du XXe siècle. C'est un mélange de styles européens avec dans les toitures quelques concessions, on va dire, au style religieux et royal. Il contient les pièces d'habitation de la famille royale qui sont assez modestes. Ce pays n'a jamais été un pays riche et la royauté n'a jamais été très riche non plus. C'est d'ailleurs ce qui surprend souvent les visiteurs, c'est la modestie de la chambre à coucher du roi. Bon, il y a par contre une salle du trône qui est assez impressionnante. Elle est elle aussi entièrement décorée de ce système en mosaïque de verre coloré qui avait beaucoup plu au dernier roi et qui a été refait dans les années 70, juste avant la chute de la monarchie. Donc c'est très récent, mais c'est très beau et c'est ça ne choque pas avec le reste de ce qu'on voit à Luang Prabang. Et puis il y a d'autres pièces de réception, des salons de réception. Il y a de très belles peintures qui ont été faites par une artiste française en 1930, Alix de Fautreau-Vassel, ou Alix Aimée de son nom de jeune fille qu'elle a repris après son divorce, qui sont des peintures dans le goût nabi, on va dire un peu, il y a du Gauguin là-dedans. C'est un Alix Aimée est un peintre relativement connu et elle a décoré tout un salon. Ce salon malheureusement a été la proie des termites. Il a commencé à être restauré et puis on n'a pas eu assez d'argent pour finir. J'allais dire c'est un peu dommage. C'est une œuvre qui est à la gloire de j'allais dire du mélange culturel entre la France et le Laos, et j'espère que les autorités françaises trouveront un jour le moyen d'aider le Laos à restaurer ces très belles peintures qui donnent en plus une vue assez romantique, assez belle de la vie de Luang Prabang à l'époque de la royauté. Donc ça, c'est un deuxième bâtiment incontournable. Il y a aussi une collection de voitures anciennes qui appartenait à la famille royale, qui est assez, pour les amateurs de voitures, assez intéressante. Deuxième monument. Alors après, les autres monuments à visiter, c'est quelques autres monastères bouddhistes. Donc celui qui est juste à côté du palais royal, de l'ancien palais royal, c'est Wat Mai, qui est un très très bel ensemble monastique aussi. Il y a un autre monastère qui est Wat Visun, que je recommande particulièrement parce qu'il a été à une époque le début d'un musée d'art religieux. Et on y a entreposé beaucoup de très belles statues anciennes d'art religieux en particulier. Il y a toute une collection de grandes statues de bois, de Bouddha en bois, qui sont du 17e, 18e, même certaines un peu plus anciennes, et qui sont vraiment de toute beauté et qui ont été entreposées là pour être protégées et souvent récupérées d'autres monastères à l'abandon. Voilà. Donc ça, c'est une autre visite intéressante à faire. Alors après, on a une trentaine de monastères en ville. Donc c'est un peu fastidieux de les faire tous les uns après les autres. Ils ont tous leur charme, ils ont tous leur intérêt, ils sont tous vivants. Tous ces monastères sont des monastères qui sont habités par des moines et des jeunes novices. Donc c'est à la fois des monuments artistiques, mais c'est aussi des lieux de culte vivant. Alors il y a quelques autres, on va dire, lieux d'intérêt. Il y a par exemple un très intéressant petit musée ethnologique qui porte le nom un peu compliqué de TAEC, donc Traditional Art and Ethnology Center, qui se trouve sur la colline du Mont Poussy. Et puis on a encore quelques autres bâtiments dignes d'intérêt. Mais je redis ce que j'ai dit, je trouve que moi le plus agréable à Longpremanque, c'est de se promener dans les rues. C'est une ville très sûre, il n'y a pas de délinquance jusqu'à maintenant, pourvu que ça dure, quasiment pas de délinquance. Et puis où les rues sont relativement bien entretenues et donc on peut se promener sans difficulté. On ne se perd pas à Longpremanque. Il y a deux rivières. Si vous vous perdez, vous tombez face à une rivière, vous la traversez pas parce qu'il n'y a pas de pont ou un tout petit pont en bambou. Et donc vous promenez, vous déambulez dans ces petites venelles, ces petites ruelles bordées de fleurs, de plantes, de vieilles maisons. Voilà. Alors il y a beaucoup maintenant, c'est vrai, de ces vieilles maisons qui ont été transformées en guest house, en hôtel, en restaurant, en boutique. Ça, c'est un nouveau problème pour ici. Est-ce que on va garder non seulement cette belle architecture, mais aussi les gens qui habitent dedans et qui aussi qui font le charme, les traditions, les cérémonies de Longpremanque?
Oui, en effet. Enfin, je suis entièrement d'accord. Le fait de se promener dans cette ville, c'est le principal attrait de Longpremanque. La lumière aussi est très très belle le soir. En ce moment, c'est la saison plutôt sèche, donc les lumières sont vraiment perçantes et elles éclairent les temples le soir d'une manière absolument fabuleuse. Et effectivement, de se promener sur ces rues, donc il y a les rues principales, la grande rue principale qui est vraiment au milieu, et puis la rue côté rivière Cannes, la rue côté Mekong. Mais entre ces rues, de manière perpendiculaire, il y a toutes ces petites ruelles qui sont aussi assez fabuleuses. Et tous ces petits bâtiments, tous ces petits restos, toutes ces petites boutiques, bon, bah, ça fait plaisir aux touristes, bien sûr, mais le développement, il faut quand même bien le dire, a été assez rapide ces dernières années. Moi, j'étais pas venu depuis 7 ans, comme je le disais, j'ai vu un certain changement. Je pensais que ce serait encore plus que ça, mais j'ai quand même vu effectivement une multiplication des restaurants, des boutiques. Certains sont excellents, hein. D'ailleurs, il y a des petites perles au niveau culinaire. Qui sont fabuleuses. Mais quel est votre avis global sur ce développement de Longpremanque? Est-ce que vous pensez, est-ce que votre avis est qu'il va dans la bonne direction? Est-ce qu'il y a déjà des abus? Est-ce qu'il y a déjà des dérives? Quelle est votre philosophie globale sur ce développement du tourisme à Longpremanque? Nous voilà au bout de la première partie de ma discussion avec Francis Engelmann, et cette question ouverte qui la clôture sera bien entendu répondue dans le prochain épisode. Je remercie déjà beaucoup Francis pour sa participation dans l'émission et j'aurai l'occasion de le faire à nouveau à la fin du prochain épisode qui sera, vous le verrez, tout aussi intéressant, et on va s'attacher à des réflexions sur le développement et les conséquences du tourisme à Longpremanque, mais aussi tout un volet passionnant où vous en apprendrez beaucoup sur le bouddhisme et la vie des moines qui font battre le cœur de cette petite ville laotienne. D'ici là, n'hésitez pas à aller retrouver les noms évoqués par Francis et puis quelques petits conseils de restaurants que j'ai ajoutés sur la page de l'épisode sur le site web sur lesroutesdelasie.com/45. Et aussi, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site Facebook ou iTunes, ce qui est toujours, comme vous le savez, à faire connaître l'émission à de nouveaux auditeurs. Aujourd'hui, j'ai envie de citer Fiacre de CH pour son deuxième commentaire déjà sur iTunes et qui fait référence à un épisode précédent sur l'Inde en disant: excellent, moi qui me disais qu'il y avait des choses à faire au Kerala, maintenant je sais quoi faire, encore merci pour ce bol d'air. Fin du commentaire, merci beaucoup à toi, et si tu n'es pas encore allé à Longpremanque, j'espère que là aussi tu auras une meilleure idée sur quoi y faire. Voilà, c'est tout pour ce premier épisode de l'année, suivi très bientôt par la deuxième partie, toujours en compagnie de Francis, et toujours sur Longpremanque. Merci pour votre écoute, et excellent voyage en Asie.